Salut à tous, c'est Sina. Je suis le producteur du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Avec Salomé et Lila, que l'on suit dans leur enquête, on a mis en place un numéro d'appel sécurisé, comme on peut l'entendre à la fin des 6 épisodes de la série. Et on commence à recevoir pas mal de messages.
Parfois, c'est pour nous conforter dans nos révélations sur des abus et des violences au sein de la communauté orthodoxe juive de France. Parfois aussi, c'est pour apporter de nouveaux témoignages.
Des articles de journaux dans la presse locale et nationale ont aussi repris ces révélations. Certains journalistes ont même commencé à poursuivre ce travail d'enquête dans les villes où les rabbins mis en cause ont exercé.
On s'est donc dit qu'il fallait prendre le temps de quelques épisodes bonus pour revenir ensemble sur ce travail d'enquête de 18 mois.
Revenir sur comment on accompagne la prise de parole des victimes dans ce podcast. Et aussi sur comment on a retranscrit celle d'un des rabbins qu'elles mettent en cause.
Raconter aussi comment ces révélations sont accueillies dans la communauté juive et au sein de ces institutions depuis qu'on a commencé à travailler sur cette enquête.
Et puis c'est l'occasion de revenir ensemble aussi sur quelques détails qu'on n'a pas encore partagés. Une sorte de boîte noire de tout ce qu'on n'a pas dit derrière cette enquête produite chez Paradiso Média par Anne-Cécile Kiri en partenariat avec les équipes de Slug News. Je suis Sinamir.
Je suis Lila Bertugo.
Et moi, Salomé Parent-Rajdi.
Et vous écoutez le deuxième épisode bonus de Tu ne te tairas point. On en vient donc à la deuxième difficulté de votre enquête, Lila et Salomé. Après avoir rencontré les victimes longuement et enquêté pendant plusieurs mois sur des accusations de violences sexuelles de la part de rabbins français, je rajoute d'ailleurs entre parenthèses, comme nous le faisons dans tous les épisodes, que les mises en cause restent à ce stade présumées innocents en l'attente de suites judiciaires concernant ces faits. Suite à ce travail donc de recueil et de vérification de la parole, vous avez dû vous mesurer aussi au poids d'une communauté et de ce que vous appelez dans la série ces mécanismes de silenciation, si je ne me trompe pas. D'un mot juste pour commencer, avant d'entrer à nouveau plus en détail dans votre enquête, est-ce que Lila, toi qui es juive, tu t'attendais à une telle levée de bouclier ?
Il y avait une crainte qui, d'ailleurs, est plutôt fondée aujourd'hui en France, qui est la crainte que ça vienne attiser l'antisémitisme. Du coup, depuis le début, on s'est dit qu'on voulait faire un travail avec la communauté et pas contre la communauté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a énormément interrogé de personnes de la communauté, qu'on a tenu dans notre contradictoire à aller voir toutes les personnes impliquées dans cette histoire, notamment au sein du consistoire. C'est d'ailleurs pour ça que dans un des épisodes, moi, j'interroge mes parents. Parce que c'est vrai que la première fois que je leur ai parlé de mon enquête, en effet, ma mère, comme elle le dit dans un épisode, instinctivement, elle s'est dit que ça allait attiser l'antisémitisme. C'est une crainte qui est presque naturelle. Que, entre guillemets, je disais, bon, on n'a pas besoin de ça en plus en France, là, aujourd'hui. On ne va pas en plus avoir le truc des... tous les rabbins sont des prédateurs sexuels et des raccourcis. Mais très vite, elle a aussi acté que c'était... une enquête qui était importante et que c'était un travail qui était important.
C'est une crainte, c'est quelque chose que vous sentez ou que vous envisagez, ou c'est une carte joker aussi qu'on a agitée devant vous pour pas vous répondre ?
Déjà, je pense que de toute façon, à chaque fois qu'on parle de violence sexuelle dans une communauté et que c'est nouveau, je pense que ça fait jamais plaisir. Et que moi, j'ai retenu ce que disait Janine Elkoubi, qui disait en fait, quelque part, l'antisémitisme, je veux dire, il existe avec ou sans les violences sexuelles. Mais je pense aussi que pour certains prédateurs, c'est aussi une carte qui a été brandie, oui, de dire, comme tous les mécanismes d'Omerta d'ailleurs, de dire attention. Et que c'est pour le coup, c'était une carte pour faire en sorte que les gens ne parlent pas, les victimes ou les gens proches des victimes et qui sont en connaissance de faits de violences sexuelles ne parlent pas.
Mais je pense que cet argument aussi de « c'est de l'ordre du privé », ça a été beaucoup utilisé, notamment par les membres du consistoire, qui nous ont dit... en gros, ils étaient en mode « une fois qu'on a traité l'affaire en interne, maintenant il est parti, concrètement, qu'est-ce que vous allez vous acharner sur lui ?» le job est fait, en fait. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Non, mais clairement. Et puis surtout, au sein du consistoire, ils ont quand même, pendant longtemps, qualifié l'affaire du rabbin numéro 1 d'affaire de mœurs, donc... On voit bien que, de toute manière, les priorités n'étaient pas exactement au bon endroit.
Il y a aussi une part de déni. Tu citais à l'instant Janine El-Koubi, donc qui est la présidente d'une association qui entend la voix des victimes, si je ne me trompe pas. Ce déni, il est évoqué dans la communauté dès l'épisode 3. J'en profite, vu que j'y fais référence, pour vous rappeler de bien finir la série avant d'écouter encore ces épisodes bonus. Ce déni, donc, c'est un paradoxe parce qu'il y a un précédent. Il y a ce qu'on... Les médias ont pu qualifier de MeToo juif religieux derrière une affaire en 2021 en Israël, l'affaire Chaim Walder. Vous l'évoquez d'ailleurs dans ce podcast, c'est ce rabbin superstar de la communauté juive ultra-orthodoxe israélienne qui s'est suicidé après avoir été accusé d'au moins 22 viols et agressions sexuelles de femmes et d'enfants.
Ce scandale qui a fait des vagues en Israël. Depuis quelques mois, la communauté juive ultra-orthodoxe est touchée par une série de révélations d'abus sexuels sans précédent.
Salomé, toi, tu as travaillé en Israël en tant que correspondante. Ce scandale, c'est le début de la libération de la parole dans ce milieu ultra-orthodoxe ou même dans la société israélienne. Ça représente quoi ?
Ben, je pense que c'est une vraie libération de la parole dans les milieux religieux et ultra-orthodoxe, parce qu'en Israël, on est quand même dans une société où on parle peut-être plus facilement de ce genre de sujet, parce que je pense qu'en France, de façon générale, qu'on parle de communauté juive ou pas, on est quand même assez en retard, même si maintenant on fait des progrès sur le traitement des violences sexuelles. Mais oui, je pense que vraiment, il faut avoir en tête que là, on parle des milieux vraiment ultra-orthodoxes, donc c'était notamment dans les quartiers Meacharim à Jérusalem, donc c'est vraiment des communautés quand même assez fermées, et où d'habitude, vraiment, il y a... qui vivent, alors... en partie en autarcie, et le fait qu'il y ait ce rabbin qui était vraiment, cet homme qui était vraiment très connu, il faut imaginer que là-bas, du coup, on allait dans les magasins, même de livres pour enfants, etc., où on voyait les livres de Chaim Walder, donc vraiment...
Parce que c'était un auteur à succès, en voilà, plus d'être un rabbin, un auteur de livres jeunesse.
C'est un auteur qui avait été traduit dans... Ses livres avaient été traduits dans plus de 80 langues, je crois. Donc voilà, donc à la fois, il était connu, évidemment, à Jérusalem et en Israël, et aussi à l'étranger, dans les milieux, du coup, ultra-orthodoxes. Et le fait qu'il y ait cette histoire, je pense que ça a été, oui, un vrai précédent, à la fois pour les communautés ultra-orthodoxes à Jérusalem et en Israël, et après, de façon générale, au niveau mondial, parce que c'était, voilà, comme c'est encore une fois des milieux fermés, c'était une première fois où on avait vraiment le côté de... Dans les quartiers, dans les rues, il y avait des affiches qui étaient... vous pouvez lire, justement, l'Otishtok, qui veut dire « tu ne te tairas point », justement. Voilà, enfin, c'était vraiment une invitation à ce que la parole se libère, et ça, pour le coup, c'était vraiment quelque chose de nouveau, et encore une fois, qui, je pense, a eu un impact, clairement, au-delà d'Israël, quoi.
Ça a créé une fracture en Israël à ce moment-là, ça a polarisé, je ne sais pas, dans la communauté. Il y a eu 2 ans d'enquête, si je ne me trompe pas, avant d'arriver à ces révélations.
Je crois qu'il y a eu beaucoup de... Et en fait, alors déjà, un des journalistes qui a sorti l'enquête, c'était un journaliste qui lui-même fait partie, je pense, de milieux juifs très pratiquants. Et en fait, c'est surtout que cette enquête, elle a été menée par un Beit Din, donc un tribunal religieux. Et c'est le grand rabbin de Safed, il me semble, qui a sorti cette affaire. Et en fait, Safed, c'est une des grandes villes juives religieuses en Israël. Donc c'était vraiment quelque part, c'était pas entre guillemets un rabbin libéral qui sortait cette histoire. C'était vraiment un rabbin du milieu orthodoxe, ultra-orthodoxe, qui a enquêté sur cette affaire et qui a fait en sorte que cette affaire sorte. Donc je pense que ça a aussi, quelque part, aplani le potentiel critique. Donc... je pense qu'évidemment, c'est comme nous, nos histoires, ça n'a pas plu à tout le monde, mais en tout cas, ça a été globalement bien reçu et ça, les gens se sont confrontés à ça, quoi.
C'est une des raisons, peut-être, de votre enquête aussi, c'est justement ce précédent. Est-ce qu'il y a eu un écho en France de ce scandale Chaim Walder ? Est-ce que les institutions s'en ont emparées aussi pour peut-être balayer devant leurs portes ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose quand vous avez commencé, vous, votre enquête ici en France, justement, par rapport à cette affaire ?
C'est vrai que je pense que les communautés, qu'elles soient en France, aux États-Unis ou en Israël, les communautés juives, elles sont très liées. En fait, il y a énormément de gens qui sont partis du coup aux États-Unis, qui aujourd'hui étaient de la communauté juive française et qui habitent en Israël. Les informations, elles circulent énormément à l'international. Et donc, ce scandale Chaim Walder est venu résonner en France. Et ça nous a permis aussi, par exemple, dans nos premiers entretiens, d'avoir un peu... un terrain de compréhension mutuelle avec les personnes avec qui on discutait ou qu'on souhaitait interviewer. Donc du coup, c'est vrai qu'on est aussi arrivé dans un moment qui était assez propice et qui, du coup, voilà, ce scandale, il nous a un peu aidés. Il a, comme on dit dans les premiers épisodes du podcast, il a un peu aussi ouvert une porte qui, jusque-là, était vraiment fermée. ce sujet-là, il était pas du tout abordé dans la communauté juive, à part vraiment, c'était à la marge par certains acteurs, mais il y avait encore énormément de réticence. Je pense que, en
Pourquoi
tout cas...
Pourquoi, à ton avis? C'est culturel? C'est parce que c'est une communauté religieuse?
En fait, voilà, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, du déni. Je pense qu'on part dans la communauté avec vraiment une idée de déni qui est très forte, qui est chez les autres, oui, mais pas chez nous. Chez nous, ça n'existe pas. Nous, on l'a beaucoup entendu dans le cas des rabbins, mais je pense que ça s'applique aussi dans le cas de la communauté juive et des violences sexuelles dans la communauté juive de manière générale. Donc c'est ça aussi qu'on a trouvé important d'enquêter avec Salomé, c'était la position d'autorité. Et c'est à quel point ces positions d'autorité, elles vont amener à ces situations-là. Et je pense que en effet, il n'y a pas cette image-là dans la communauté juive, qu'il y a eu, il y a eu quelques enquêtes qui ont été faites. Il y a eu le documentaire de Yolande Zoberman qui a été la première à en parler. Il y a eu aussi des séries, mais qui étaient plutôt dans le monde ultra-orthodoxe, qui étaient unorthodoxes. En France, il n'y a rien qui a été fait, qui avait été fait jusqu'au podcast pour l'instant, parce que je pense qu'en effet, il y avait, avant qu'on se confronte au déni aussi des institutions, on s'est peut-être un peu aussi confronté au déni de certaines personnes qui pouvaient se dire que ça n'existait pas dans la communauté, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose dans la communauté juive qui veut qu'on se veuille irréprochable. C'est aussi dans les préceptes de notre religion. Et donc, du coup, de se confronter à quelque chose d'aussi violent, à des actes en plus d'une personne d'autorité qui est parfois référent dans notre vie communautaire, c'est compliqué.
Tu l'évoquais là juste à l'instant, il y a aussi donc cette dimension institutionnelle de ce déni. Vous avez eu beaucoup d'interactions avec des membres du consistoire ou de la communauté juive, au niveau régional, autour des villes où les rabbins mis en cause ont exercé, au niveau national, avec le grand rabbin de France, Raïm Korsia, qui rappelle que personne n'est nommé sans son accord. Et à chaque fois, au mieux, il y a un refus de vous parler, voire potentiellement une couverture des faits.
Allô ?
Oui, monsieur Amias ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Salomé Parent et Lila Berdugo à l'appareil. Comment vous allez? On vous dérange?
Là, oui, je suis sur mon lieu de travail.
D'accord.
J'ai prévu de vous envoyer une réponse, de toute façon.
On aurait aimé savoir si c'était possible. On était assez motivés pour venir vous rencontrer, pour faire l'interview.
Non, je ne ferai pas d'interview. Je vais vous donner une réponse écrite.
Même si c'est en off, c'est pas possible de venir en personne vous parler?
Non, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Je vous réponds et puis vous verrez.
Ok, très bien.
Allez.
Merci.
Au revoir.
Le but aussi, c'est pas de mettre sa femme et ses enfants dans la boue, quoi. Je veux dire, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, je veux pas prêter ma main à ça parce qu'il a une famille, quoi. Je veux dire, moi, ce qui m'importe, c'est qu'il ne soit plus en état de nuire. Voilà. Aujourd'hui, c'est le cas.
Moi, j'ai dit ça?
Oui.
Jamais, jamais, ah, jamais.
Concernant Aix-en-Provence.
Ah, pas du tout. Alors là, vraiment, là, je connais personne. Ah bah, je suis désolé, c'est pas moi. Ah non, je suis désolé, c'est pas moi. Je vais vous répondre ce soir. Non, mais je connaissais pas du tout cette affaire d'Aix-en-Provence. Je la connaissais pas du tout. Voilà, et c'est pas moi. Et moi, j'ai jamais dit ça. C'est une erreur. Elle doit parler de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai jamais dit ça.
Votre enquête, elle montre pourtant que l'institution savait. Est-ce que pour vous, maintenant que vous avez quelques mois de recul, elle a minimisé ou elle a couvert ces faits de violence?
Les deux, ils ont couvert des faits. Enfin, maintenant, on voit qu'on sait très bien qu'ils étaient au courant. On voit aussi que quand Raïm Korsia fait sa circulaire pour annoncer le départ du rabbin numéro 1 de Bordeaux, on voit que les vraies raisons de son départ ne sont pas dites publiquement. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'ils ont minimiser et cacher des faits. Et je pense qu'il y a une partie qui est intentionnelle de dire il faut pas faire de vagues, on veut pas que ça explose, on va gérer ça en interne, et ça qui peut faire penser à l'Église catholique. Mais je pense qu'il y a, oui, donc il y a une partie vraiment intentionnelle de c'est conscient, on ne veut pas que ça sorte et on juge que c'est pas assez important. Et je pense aussi qu'il y a toute une partie où c'est en fait quelque part, je pense qu'ils savent pas gérer ce genre de sujet, parce qu'on parle quand même très concrètement d'une bande de monsieur pas très jeune. Et je pense que les violences sexuelles, alors
clairement, je pense qu'il y a une partie, ça ne les intéresse pas. Ils ne voient pas l'intérêt de parler de ça. Et je pense aussi qu'il y a vraiment un truc de... On ne sait pas gérer. Quand on a été voir Raïm Korsia et Élie Korsia, je pense que...
Donc les plus
part,
hautes figures voilà, du consistoire.
Le gouverneur de France, c'est le président du consistoire. Je pense que quelque part, ils savaient que ça allait finir par arriver, qu'on allait aborder ce genre de sujet. Et clairement, encore une fois, on a été les voir en tant qu'institution. Ce n'était pas eux deux en tant que personnes qu'on visait. Et il y avait un côté, bon, bah voilà, maintenant on se retrousse les manches parce que vous êtes là et parce qu'il faut aborder le sujet. Mais je pense qu'ils savaient bien que ça allait finir par arriver, quoi.
Dans la foulée des affaires concernant l'Église catholique, Raïm Korsia en parle d'ailleurs, il y a une prise de conscience. Il est même, je crois, présent lors de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église en France. C'est quoi? C'est de se dire que c'est embryonnaire, comme tu disais, Lila, au niveau du judaïsme, comparé à ces centaines de milliers de cas et de victimes qui ont été révélées dans l'Église catholique? C'est ça qui fait la différence? Ils se disent qu'ils peuvent garder ça au sein de leurs institutions parce que ça n'a pas la même échelle, la même proportion?
Alors, je pense qu'en effet, il y a ça. Et d'ailleurs, quand on leur a parlé de l'Église catholique au grand rabbin de France et au président du consistoire, ils ont bien insister sur le fait que ça n'était pas du tout la même chose et qu'il n'y avait pas de comparaison à avoir. Nous, ce qu'on dit et notre propos, c'est qu'on n'a pas, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de victimes pour que ce soit un sujet qui doive être pris en charge, que là, il y a quand même suffisamment de cas qui ont été avérés, qu'on a suffisamment de victimes qui nous ont contactés, qui ont contacté d'autres associations pour que ce soit un sujet qui soit pris en charge par le consistoire. Donc voilà, je pense que en effet, on est aussi et surtout à un stade embryonnaire parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était pas un sujet qui passionnait les institutions, quoi. Et voilà, on a bien vu quand on est arrivé au consistoire et qu'on a rencontré Raïm Korsia et Élie Korsia, qu'ils faisaient l'effort, mais qu'ils n'étaient pas non plus hyper confortables, quoi.
Je précise que quand on parle d'embryonnaire, évidemment, on parle de la réaction des institutions et évidemment pas des témoignages des victimes qui parlent dans votre podcast. On a intitulé le dernier épisode de cette série « La fin du silence ». Donc c'est suite justement aux prises de parole des plus hautes autorités religieuses juives en France par rapport aux témoignages que vous avez compilés. C'est un vœu, ce titre, ou c'est une réalité selon vous aujourd'hui?
Non, c'est un vœu. On espère que ce que disait Lila, c'est que notre podcast, je pense qu'on le voit comme un outil. On espère qu'il va être un outil qui favorise la libération de la parole, comme le sont ce que font par exemple... les filles de Colel, ou comme le fait Nous pour Elles, voilà, de dire maintenant...
Colel, tu rappelles ce que c'est?
Colel, c'est un collectif de femmes juives orthodoxes, en gros, qui aborde tous ces sujets, notamment des violences sexuelles, mais aussi, ben, concrètement, ce que c'est d'être une femme juive pratiquante, mais en même temps qui s'intéresse au sujet de féminisme, au sujet de la défense des communautés, que ce soit, je sais pas, le mouvement LGBT, enfin, plein de sujets comme ça. Donc voilà, de dire, on est dans notre société et on s'intéresse aux grands sujets aujourd'hui dont on discute en France, mais tout en ayant une conduite stricte, et enfin, en suivant la halakha, donc la loi juive de près, en la respectant, mais ça ne nous empêche pas de faire l'un et l'autre, quoi. Et oui, enfin, en tout cas, c'est de nous, je pense, ce qu'on essaye de faire, c'est que notre podcast soit un outil pour accompagner cette libération de la parole. Et en fait, c'est un peu l'idée de dire, bon, maintenant, voilà, c'est un outil en plus, et il faut maintenant que les gens s'en saisissent. Et notamment, on espère que le consistoire va s'en saisir aussi et ne va pas... on espère, par exemple, que cette fameuse commission qui a été créée contre les violences sexuelles, elle va vraiment être utilisée.
Des réactions au podcast? Est-ce que déjà, justement, depuis la diffusion, les autorités du consistoire sont revenues vers vous? Vous ont dit quelque chose de plus ou pas?
Alors, on n'a pas eu... là, on est à une semaine de la fin de la sortie du dernier épisode. On n'a pas eu des réactions de la part ni du consistoire, ni des personnes au sein de l'institution qu'on a interviewées. En revanche, et là où on est vraiment contente, c'est qu'on a eu pas mal de retours des victimes. Ça, c'était le plus important pour nous, qui nous ont dit être fiers et heureuses de l'intégralité et du contenu du podcast. Donc voilà. Mais par contre, au niveau institutionnel, non, rien. Pas de réaction pour l'instant. Peut-être qu'ils le feront à un moment donné, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être dans leur plan.
Et après, on a aussi reçu, avec le fameux numéro de téléphone, d'ailleurs c'est toi hein, qu'on entend à la fin du podcast, qui donne le numéro.
Oui, on a mis en place un numéro d'appel crypté, qu'on vous redonnera d'ailleurs à la fin de cet épisode bonus, si vous souhaitez témoigner sur des faits dont vous avez été victime ou dont vous avez connaissance et qui se rapportent à cette enquête.
Et donc là, on a reçu quelques nouveaux témoignages. On a aussi reçu beaucoup de messages de soutien, de personnes qui disent bravo, merci pour votre travail. Donc ça, on était vraiment très heureuses de ça avec Lila. Et puis après, on a reçu d'autres témoignages de personnes qui nous parlent de nouvelles affaires.
Ça veut dire que cette enquête, elle va continuer.
Ce qui est sûr, c'est que nous, cette matière, on veut en faire quelque chose, que ce soit nous, que ce soit d'autres journalistes, mais on veut qu'elle soit utilisée et qu'on continue en tout cas, enfin que ce sujet ne disparaisse pas et qu'il continue à être abordé dans la presse.
Tu ne te tairas point est une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media, en association avec Slug News. Si vous souhaitez témoigner à la suite de cette enquête, vous pouvez nous contacter anonymement ou non sur les messageries cryptées WhatsApp ou Signal sur le numéro suivant 06 38 35 57 64. Les données de vos messages seront protégées. Pensez à vous abonner à L'Affaire sur votre plateforme d'écoute. C'est gratuit, et en cochant la case « Suivre » ou « S'abonner », ça vous permet de ne rien manquer. À très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.